Chapitre 13. Question. Comment puis-je résoudre les problèmes de santé qui m'affligent? J'ai été victime de problèmes chroniques suffisants pour remplir 3 vies. Pourquoi les ai-je tous maintenant en 7 vies? Réponse. Tout d'abord, soyons clairs sur une chose. Tu les aimes, la plupart du moins. Tu les as admirablement utilisés pour te plaindre et pour attirer l'attention. L'une des rares fois où tu ne les as pas aimés, ce n'est que parce qu'ils étaient allés trop loin, plus loin que tu ne l'avais prévu en les créant. Alors, comprenons ce que tu sais probablement déjà. Toute maladie est créée par soi-même. Même les docteurs en médecine conventionnelle voient maintenant à quel point les gens se rendent malades. La plupart des gens le font tout à fait inconsciemment. Ils ne savent même pas ce qu'ils font. Alors quand ils tombent malades, ils ne savent pas ce qui leur tombe dessus. Ils disent que quelque chose leur est arrivé et non que c'est une chose qu'ils se sont faite. Cela arrive parce que la plupart des gens vivent inconsciemment toute leur vie, et pas seulement l'aspect de la santé et ses conséquences. Les gens fument et se demandent pourquoi ils ont le cancer. Les gens ingèrent des animaux et des matières grasses et se demandent pourquoi ils ont les artères bloquées. Les gens demeurent en colère toute leur vie et se demandent pourquoi ils ont des crises cardiaques. Les gens sont en concurrence avec d'autres, sans pitié et sous une pression incroyable, et se demandent pourquoi ils subissent des attaques. La vérité, qui n'est pas si évidente, c'est que la plupart des gens se meurent d'inquiétude. L'inquiétude est l'une des pires formes d'activité mentale, à l'exception de la haine, qui est profondément autodestructrice. L'inquiétude est inutile, c'est de l'énergie mentale gaspillée. Elle crée aussi des réactions biochimiques nocives pour le corps, et produit une multitude de problèmes allant de l'indigestion à l'infarctus. La santé s'améliorera presque aussitôt que cessera l'inquiétude. La haine est l'état mental le plus nocif. Elle empoisonne le corps et ses effets sont à toute fin pratique irréversibles. La peur est le contraire de tout ce que tu es. Elle a donc un effet antagoniste sur ta santé mentale et physique. La peur est un agrandissement de l'inquiétude. L'inquiétude, la haine, la peur, combinées à leurs sous-produits, l'anxiété, l'amertume, l'impatience, l'avarice, le manque de gentillesse, la tendance au jugement et la condamnation, attaquent tout le corps au niveau cellulaire. Dans de telles conditions, il est impossible d'avoir un corps sain. De même, bien que ce soit à un degré moindre, la dissimulation, l'auto-gratification et l'avidité mènent toutes à la maladie physique ou au manque de bien-être. Toute maladie est d'abord créée dans le mental. Question. Comment est-ce possible? Et les maladies contractées de quelqu'un d'autre? Les rhumes ou encore le sida? Réponse. Rien ne se produit dans ta vie, rien, qui ne soit d'abord une pensée. Les pensées sont comme des aimants qui attirent des effets vers toi. La pensée n'est peut-être pas toujours évidente, ni clairement causale, comme dans « je vais contracter une terrible maladie ». La pensée peut être, et est habituellement, beaucoup plus subtile que cela. Je ne suis pas digne de vivre, ma vie est toujours gâchée, je suis un perdant, Dieu va me punir, je suis écœuré de la vie. Les pensées sont des formes d'énergie très subtiles, mais extrêmement puissantes. Les paroles sont moins subtiles, plus denses. Les actions sont les plus denses. L'action, c'est de l'énergie sous une forme physique lourde, en mouvement lourd. Quand tu penses, parles et agis à partir d'un concept négatif, tel que « je suis minable », tu mets en mouvement une incroyable énergie créatrice. Pas étonnant que tu attrapes un rhume, c'est la moindre des choses. Il est très difficile de renverser les effets de la pensée négative lorsqu'ils ont pris une forme physique. Pas impossible, mais très difficile. Il faut un acte de foi extrême. Cela exige une croyance extraordinaire en la force positive de l'univers, que tu l'appelles Dieu, l'intouchable, puissance, celui qui fait bouger sans bouger, la force première, la cause première, peu importe. Les guérisseurs ont ce genre de foi. C'est une foi qui atteint la connaissance absolue. Ils savent que tu es fait pour être entier, complet et parfait en ce moment présent. Cette connaissance est également une pensée d'ailleurs très puissante. Elle a le pouvoir de soulever les montagnes, sans parler des molécules de ton corps. C'est pourquoi les guérisseurs peuvent guérir, souvent même à distance. La pensée ne connaît pas la distance. La pensée fait le tour du monde à travers l'univers plus vite que tu ne peux le dire. Une parole de toi et mon serviteur sera guéri. Et il en fut ainsi, sur le champ, avant même que sa phrase ne finisse. Telle était la foi du centurion. Mais vous, vous êtes tous lépreux dans le mental. Votre mental est dévoré par les pensées négatives. Certaines d'entre elles vous sont imposées. Il y en a un grand nombre que vous fabriquez, faites apparaître vous-même. Puis, hébergez et entretenez pendant des heures, des jours, des semaines, des mois et même des années. Et vous vous demandez pourquoi vous êtes malade ? Tu peux résoudre certains problèmes de santé, comme tu le dis, en résolvant les problèmes qui affligent ta pensée. Oui, tu peux guérir certaines des maladies que tu as déjà acquises, que tu t'es donné toi-même, tout comme tu peux empêcher de nouveaux problèmes de se développer. Et tout cela, tu peux le faire en changeant ta façon de penser. Aussi, et je déteste dire cela, car cela paraît tellement trivial venant de Dieu, pour l'amour, prends mieux soin de toi-même. Tu prends mal soin de ton corps. Tu lui accordes peu d'attention jusqu'à ce que tu soupçonnes que quelque chose va mal. Tu ne fais presque aucun entretien préventif. Tu t'occupes davantage de ta voiture que de ton corps, et c'est peu dire. Non seulement tu n'arrives pas à prévenir les pannes au moyen de vérifications régulières, d'examens physiques annuels, et par l'usage de thérapies et de médicaments qu'on t'a donnés, pourquoi irais-tu voir le médecin pour lui demander son aide? Si tu n'utilises pas les remèdes qu'il suggère, peux-tu bien me le dire? De plus, entre ces visites, qui ne te font rien changer à ta façon de vivre, tu maltraites ton corps. Comme tu ne lui fais pas faire d'exercice, il devient flasque. Et pire encore, s'affaiblit à force de ne pas servir. Comme tu ne le nourris pas convenablement, il s'affaiblit davantage. Puis, tu le remplis de toxines et de poisons, de substances hautement ridicules, déguisées en nourriture. Et il fonctionne tout de même pour toi, ce merveilleux engin. Il avance en haletant, persévérant bravement sous la charge. C'est horrible. Les conditions dans lesquelles tu demandes à ton corps de survivre sont horribles. Mais tu n'y feras pas grand-chose. Tu vas dire ça, hocher la tête en signe d'accord et de regret, et retourner tout droit à tes mauvais traitements. Et tu sais pourquoi ? Question. J'ai peur de te le demander. Réponse. Parce que tu n'as aucune volonté de vivre. Question. Cela me semble être une dure condamnation. Réponse. Cela ne se veut pas dur, et cela ne se veut pas une condamnation. Dur est un terme relatif, un jugement que tu as mis sur les mots. Condamnation a une connotation de culpabilité, et culpabilité a une connotation de méfait. Il n'y a aucun méfait en cause ici, et par conséquent, ni de culpabilité, ni condamnation. J'ai tout simplement énoncé la vérité. Comme tous les énoncés de vérité, il a le mérite de te réveiller. Certaines personnes n'aiment pas se faire réveiller. La plupart n'aiment pas cela. La plupart préfèrent dormir. Le monde est dans l'état où il se trouve parce que le monde est plein de somnambules. En ce qui concerne mon affirmation, qu'est-ce qui semble fou ? Tu n'as vraiment aucune volonté de vivre. Du moins, tu n'en as eu aucune jusqu'à présent. Si tu me dis que tu as vécu une conversation instantanée, je réévaluerai ma prédiction de ce que tu feras maintenant. Je reconnais que ma prédiction est fondée sur l'expérience passée. Elle était également destinée à te réveiller. Parfois, lorsqu'une personne est vraiment profondément endormie, il faut la secouer un peu. J'ai déjà constaté que tu avais eu une faible volonté de vivre. Tu peux le nier, mais dans ce cas, tes actions en disent plus long que tes paroles. Si, dans ta vie, tu as jamais allumé une cigarette, sans parler de fumer un paquet par jour pendant 20 ans comme tu l'as fait, tu as très peu de volonté de vivre. Tu ne te soucies pas de ce que tu fais à ton corps. Question. Mais j'ai cessé de fumer il y a au moins 10 ans. Réponse. Seulement après 20 ans de punition physique épuisante. Et si tu as jamais pris de l'alcool, tu as très peu de volonté de vivre. Question. Je bois très modérément. Réponse. Le corps n'était pas destiné à prendre de l'alcool. L'alcool affaiblit l'esprit. Question. Mais Jésus prenait de l'alcool. Il est allé aux noces et a changé l'eau en vin. Réponse. Alors, qui a dit que Jésus était parfait ? Question. Oh, pour l'amour de Dieu. Réponse. Dis donc, est-ce que je t'ennuie ? Question. Eh bien, loin de moi l'idée que Dieu m'ennuie. C'est-à-dire, ce serait un peu présomptueux, non ? Mais je crois que nous pourrions aller trop loin dans tout ça. Mon père m'a enseigné à prendre tout avec modération. Je crois que je m'en suis tenu à ça en ce qui me concerne l'alcool. Réponse. Le corps récupère plus facilement d'un abus modéré. Le dicton est par conséquent utile. Néanmoins, je m'en tiendrai à ma première affirmation. Le corps n'était pas fait pour prendre de l'alcool. Question. Mais même certains médicaments contiennent de l'alcool. Réponse. Je n'ai aucun contrôle sur ce que vous appelez médicaments. Je maintiens mon affirmation. Question. Tu es vraiment régie, non? Réponse. Écoute, la vérité, c'est la vérité. Si quelqu'un disait « un peu d'alcool ne te fera pas de mal » et plaçait cette affirmation dans le contexte de la vie telle que tu la vis maintenant, je serais d'accord, mais cela ne change pas la vérité de ce que j'ai dit. Cela te permet tout simplement de l'ignorer. Mais considère ceci. Actuellement, vous, les humains, vous usez votre corps, en général, en une période de 50 à 80 ans. Certains restent plus longtemps, mais ils sont peu nombreux. Certains cessent de fonctionner plus tôt, mais pas la majorité. Pouvons-nous nous entendre là-dessus ? Question. Oui, d'accord. Réponse. Très bien. Nous avons un bon point de départ pour notre discussion. Alors, quand je disais que je pourrais être en accord avec l'affirmation « un peu d'alcool ne vous fera pas de mal », je qualifiais cela en ajoutant dans le contexte de la vie telle que vous la vivez maintenant. Tu vois, vous semblez satisfait de la vie telle que vous la vivez maintenant, mais la vie, vous serez peut-être surpris de l'apprendre, a été faite pour être vécue d'une façon complètement différente. Et votre corps était conçu pour durer beaucoup plus longtemps. Question, vraiment ? Réponse, oui. Question, combien de temps ? Infiniment plus longtemps. Question, qu'est-ce que cela veut dire ? Réponse, cela veut dire, mon fils, que ton corps était conçu pour durer à jamais. Question, à jamais ? Réponse, oui, relis, à jamais. Question, tu veux dire que nous n'étions, ne sommes jamais censés mourir ? Réponse, vous ne mourrez jamais, la vie est éternelle, vous êtes immortel, vous ne mourrez jamais. Vous changez tout simplement de forme. Vous n'aviez même pas à faire ça. C'est vous qui avez décidé de faire ça, pas moi. Le corps que je vous ai fait est censé durer à jamais. Crois-tu vraiment que le mieux que Dieu puisse faire, le mieux que je puisse produire, était un corps qui pourrait se rendre jusqu'à 60, 70, peut-être 80 ans avant de s'effondrer? Est-ce là, selon toi, la limite de ma capacité? Question. Je n'ai jamais pensé à le formuler de cette façon, exactement. Réponse. Je vous ai conçu un corps magnifique pour qu'il dure à jamais. Et les premiers d'entre vous ont vraiment vécu dans le corps presque sans douleur et sans la peur de ce que vous appelez maintenant la mort. Dans votre mythologie religieuse, Adam et Ève symbolisent votre mémoire cellulaire de ces humains première version. En fait, bien entendu, ils étaient plus de deux. L'idée de départ, c'était que votre âme merveilleuse ait une chance de connaître votre soi en tant que qui vous êtes vraiment, à travers des expériences acquises dans le corps physique, dans le monde relatif, comme je l'ai expliqué à maintes reprises ici. Cela s'est fait en ralentissant la vitesse incommensurable de toute vibration, forme pensée, pour produire de la matière, y compris cette matière que vous appelez le corps physique. La vie a évolué, par une série d'étapes, en un clin d'œil que vous appelez maintenant des milliards d'années. Et en cet instant sacré, vous êtes venu de la mer, l'eau de la vie, sur la terre et sous la forme que vous entretenez maintenant. Thank you. Question. Alors les évolutionnistes ont raison? Réponse. Je trouve amusant, c'est une source d'amusement continuelle en fait, que vous autres humains ayez un tel besoin de tout séparer en vrai et en faux. Il ne vous vient jamais à l'esprit que vous avez inventé ces étiquettes pour vous aider à définir la matière et votre soi. Il ne vous vient jamais à l'esprit, sauf aux esprits les plus raffinés parmi les vôtres, qu'une chose puisse être à la fois vraie et fausse, que les choses ne sont l'une ou l'autre que dans le monde relatif. Dans le monde de l'absolu, du temps non-temps, toutes les choses sont tout. Il n'y a ni mâle, ni femelle, ni avant, ni après, ni vite, ni lent, ni ici, ni là, ni haut, ni bas, ni gauche, ni droite, et ni vrai, ni faux. Vos astronautes et cosmonautes ont acquis ce sentiment. Ils ont imaginé avoir été lancés vers le haut pour atteindre l'espace. Mais ont découvert, en arrivant là, qu'ils levaient les yeux vers la Terre. Vraiment. Peut-être baissaient-ils les yeux vers la Terre. Mais alors, où était le Soleil? En haut, en bas? Non, là-bas, à gauche. Alors, soudainement, une chose ne se trouvait ni en haut ni en bas. Elle était de côté. Et par conséquent, toutes les définitions disparaissaient. Ainsi en est-il dans mon monde, notre vrai royaume. Toutes les définitions disparaissent et il est difficile de parler même de ce royaume-ci en termes certains. La religion est une tentative de votre part de parler de l'indicible, elle n'est pas très efficace. Non mon fils, les évolutionnistes n'ont pas raison. J'ai créé tout cela en un clin d'œil, en un seul instant, tout comme l'ont dit les créationnistes. Et ça a suivi un processus d'évolution étalé sur des milliards et des milliards de ce que vous appelez années, tout comme le prétendent les évolutionnistes. Ils ont tous les deux raison, comme l'ont découvert les cosmonautes. Tout dépend de la façon dont vous le regardez. Mais la question véritable c'est, entre un seul instant sacré et des milliards d'années, quelle est la différence? Peux-tu tout simplement reconnaître que sur certaines des questions de la vie, le mystère est trop grand pour que même toi tu le résolves? Pourquoi ne pas considérer le mystère comme étant sacré? Et pourquoi ne pas laisser le sacré être sacré et le laisser en paix?